Récemment, en recherchant une station de radio en modulation de fréquence, vous avez peut-être entendu cet indicatif bizarre.
Principe Actif, le mix des cultures.
C'est celui de
Principe Actif. Principe Actif.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Bon, vous voulez envoyer un peu de musique, cher ami ?
Face, mate. Very class, isn't it?
£300 to take a class in it. I wanna break the phone, I wanna leave the town, I wanna see you alone, 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 alone. I wanna straight the shack, I find me someone to pack, like the light when it's dark, it's dark, it's dark, dark. A few stairs about, make it feel like peace to the way, compliment around, consolation, got a twist in it, for a GPO and all the hits in it. I'm gonna hit your business if it's momentary blizzness. I'm gonna hit your business if it's momentary. I'm gonna hit your business.
mind insanity, it depends on it. How I feel, how I feel, how I feel. I wanna keep here.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour sa seconde émission sur la promotion des droits humains du mois d'avril, puisque nous sommes le mardi 28. C'est ça, le 28 ? Oui, on est le 28. Et autour des micros avec moi ce soir, il y a Dominique.
Bonsoir.
Parle bien dans le micro, Dominique. Et Claire-Lise.
Bonsoir.
Voilà. Donc, pour commencer l'émission, on va faire un petit rappel sur notre actualité locale. Généralement, on en parle à la fin, mais là, on va commencer par ça. Parce que ceux qui sont venus à la projection débat qu'on avait organisée le jeudi, j'ai plus la date en tête, mais au début du mois d'avril, là, la projection de débat n'a pas pu avoir lieu. On avait parlé à la dernière émission.
Je crois que c'était le 26.
Oui, c'était dans ces eaux-là.
C'était au mois d'avril. Ouais, voilà. Et ça n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu une panne générale d'électricité au cinéma qui a dû fermer ses portes. Voilà. Donc le cinéma nous a proposé de reprogrammer cette soirée débat le jeudi 7 mai. C'est donc ce qu'on a accepté. Alors juste un petit rappel sur ce. Donc c'est à 19h15. C'est une projection débat. Donc qui est sur le film Tout va bien. Petit rappel sur ce film documentaire qui n'est jamais passé à Évreux. Il et elle se nomment Aminata, Junior, Khalil, Abdoulaye et viennent de Guinée, de Côte d'Ivoire, d'Algérie, etc. Âgés de 14 à 19 ans, ils et elle ont traversé désert et mer, seuls. Arrivés à Marseille, ces filles et garçons portant de l'espoir brûlant d'une nouvelle vie, ils apprennent un métier, un pays, des habitudes et pour certains une langue. Tout va bien, répètent-ils obstinément à leur famille, mais le véritable voyage ne fait que commencer. Alors ce film alterne portrait de vie, analyse sociologique, témoignage et suivi émotionnel. Il déconstruit les préjugés, montre la richesse et la diversité des parcours et par là même lutte contre la xénophobie et les amalgames entre migration et criminalité. En donnant la parole aux jeunes eux-mêmes, le film milite pour un regard renouvelé et une prise en charge respectueuse qui alerte sur les risques d'exploitation, de traite, de discrimination et de refus de soins. Alors cette projection, donc à 19h15, sera suivie d'un débat qui sera co-animé par le réseau Éducation sans frontières, RESF, et Amnesty International. Donc on espère qu'on va vous retrouver nombreux, au moins tous ceux qui se sont cassés le nez la première fois, mais ce n'était pas de notre faute, et donc on se retrouve le jeudi 7 mai. Voilà. Et dans l'actualité aussi, là c'est l'actualité internationale des droits humains, Amnesty International, vous le savez sans doute, publie depuis 65 ans un rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde. Et le rapport annuel vient d'être publié là, au mois d'avril, et donc il y a une présentation de ce rapport que je vais vous lire, effectivement. Alors le texte est un petit peu long, mais je pense que c'est un résumé et que c'est indispensable d'avoir bien connaissance de ce qu'il dit, ce rapport annuel et cette présentation. Alors voilà ce que dit Amnesty. Nous sommes à un tournant. L'ordre mondial bâti dans l'après-guerre menace de s'effondrer. Après la Seconde Guerre mondiale, la logique du « plus jamais ça » avait conduit les États à ériger un système fondé sur le respect du droit international. Bâti sur les 80 dernières années, cet ordre vise à empêcher les guerres et l'amassement des pouvoirs et des richesses au profit de quelques-uns. Il repose au contraire sur l'idée d'un monde où priment les droits, la justice et l'égalité. 2025 est une année de bascule car le droit international n'est plus simplement bafoué. Il est méprisé et ouvertement attaqué par ceux qui voudraient conquérir et accumuler les territoires et les ressources sans aucune limite. Vladimir Poutine en Ukraine, Benjamin Netanyahou en Palestine, Donald Trump au Venezuela puis en Iran. Ces trois dirigeants ont été les chefs de file des attaques contre le droit international, le laissant plus fragilisé et vacillant qu'il ne l'a jamais été depuis ses fondements en 1948. Nous ne vivons pas simplement une nouvelle période difficile. Nous sommes au moment même où tout peut basculer, où tout ce qui a été construit au cours de ces 80 dernières années risque d'être anéanti. Je n'ai pas besoin de droit international. Ma propre moralité, c'est mon propre esprit. C'est la seule chose qui peut m'arrêter. Le président des États-Unis, qui a dit ces paroles, a donné le ton dans un entretien en New York Times sur sa conception du respect du droit international. Quand Donald Trump parle de sa propre moralité, on peut effectivement s'inquiéter. Petit commentaire personnel. Avec le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Donald Trump a particulièrement mis à mal le droit international depuis son retour à la Maison-Blanche. Les violations se sont multipliées avec les crimes contre l'humanité en Ukraine, le crime de génocide à Gaza et les crimes de guerre dans les eaux des Caraïbes, du Pacifique et plus récemment en Iran. Mais ils n'ont pas seulement bafoué le droit international à de multiples reprises. Ils l'ont également ciblé avec la volonté de le neutraliser. Ils se sont attaqués à des piliers qui œuvrent pour la justice. Sanctions contre la Cour pénale internationale par les États-Unis, condamnation de son procureur et de ses juges par la Russie, décrédibilisation de la Cour internationale de justice qualifiée d'antisémite par Benjamin Netanyahou. Les États-Unis se sont retirés des principaux organes internationaux, comme le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, et ont créé de toutes pièces un organe concurrent au Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil de la paix, bien mal nommé d'ailleurs Conseil de la paix. Des dirigeants politiques comme Donald Trump, Vladimir Poutine ou Benjamin Netanyahou, pour ne citer qu'eux, ont poursuivi une stratégie de conquête dictée par leur seule soif de domination économique, multipliant les destructions, les actes de répression et les violences de grande ampleur. Les principales violations et attaques envers le droit international sont les suivantes. Le silence et la complaisance des autres États ont entraîné la chute d'un rempart l'un après l'autre du droit international. La plupart des États européens ont cédé face aux assauts menés par les États-Unis, Israël et d'autres pays puissants contre le multilatéralisme et le droit international. Trop de pays n'ont rien mis en place pour faire cesser le génocide à Gaza, dérogeant ainsi à la décision de la Cour pénale internationale de justice. Les transferts d'armes envers Israël n'ont pas cessé et la France continue d'asséner qu'elle ne vend aucune arme à Israël alors que les preuves du contraire s'enchaînent. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Autriche ou la France sanctionnent la solidarité avec la population palestinienne. La Hongrie et la Pologne ont refusé d'arrêter sur leur territoire Benjamin Netanyahou, visé par un mandat de la Cour pénale internationale. Seule une poignée d'États ont décidé de faire front, comme l'Afrique du Sud, qui a saisi la Cour internationale de justice pour la violation de la Convention sur le génocide, l'Espagne, qui assume clairement sa défense du droit international, ou les 16 pays du groupe de La Haye, qui se sont engagés en juillet 2025 à mettre fin à tous les transferts d'armes vers Israël. Quelle est l'alternative proposée par ceux qui s'attaquent à l'ordre mondial ? À quoi ressemblerait le monde sans droit international ? L'ordre mondial que ces prédateurs proposent renonce à la justice raciale, de genre et climatique. Ils considèrent la société civile comme un ennemi et rejettent la solidarité internationale. Ces fondements consistent à réduire au silence la dissidence, manipuler la loi et déshumaniser toutes les personnes considérées comme « différentes ». Entre guillemets. Leur vision du monde ne s'appuie pas sur le respect de notre humanité commune, mais sur la force militaire, la domination commerciale et l'hégémonie technologique. Il s'agit, au bout du compte, d'une vision sans boussole morale. Le droit international est loin d'être mort. Il est au contraire très vivant. S'il est attaqué de toutes parts, il n'a jamais... autant pour moi.
Bah bravo.
Autant pour moi, j'ai oublié de mettre mon téléphone au silencieux. Donc le droit international est loin d'être mort. Il est au contraire très vivant. S'il est attaqué de toutes parts, il n'a jamais été aussi présent dans les débats contemporains. Génocide à Gaza, agression envers l'Ukraine et le Venezuela, menace envers le Groenland, attaque illégale menée contre l'Iran, massacre au Soudan. Jamais le droit international n'aura été autant débattu dans la société jusque dans les hautes sphères des États. Les États s'emparent des outils juridiques et font des requêtes sur les crimes commis dans d'autres pays. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, la Cour pénale internationale a reçu un nombre record de 75 requêtes. 18 États soutiennent la plainte de l'Amérique du Sud contre Israël. En France, 160 dossiers sont ouverts au nom de la compétence universelle qui permet de juger les crimes les plus graves dans le monde. Jamais il n'y a eu autant de chefs d'État visés par des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale, avec l'arrestation de l'ancien président philippin Rodrigo Duterte, l'émission de mandats d'arrêt contre Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou. Si le droit international dérange autant les plus puissants, c'est parce qu'il leur commande, il leur demande des comptes et lutte contre leur impunité. Le droit international gêne les plus puissants. Ils en viennent même à le craindre. S'ils cherchent à le faire disparaître, c'est parce qu'il représente un contre-pouvoir puissant. Dès ses fondements en 1948 avec la Déclaration universelle des droits humains, il a permis de façonner un monde post-guerre vers davantage de justice, d'égalité, d'équilibre des pouvoirs entre les États, de protection des droits des minorités. Il représente un rempart à l'accumulation des ressources naturelles et énergétiques, à l'expansion des territoires et à la concentration des pouvoirs. Les annonces de la mort de l'ordre international ne sont pas faites parce que le système ne fonctionne pas, mais parce qu'il ne sert pas les intérêts de celles et ceux qui règnent sur la politique et l'économie. Ces puissants aimeraient aujourd'hui nous faire croire que tout cela n'était qu'une chimère, une belle fiction désormais obsolète. Bien sûr, l'ordre mondial actuel est loin d'être parfait. Il n'est d'ailleurs pas exempt d'injustices, de guerres et de conflits. Des millions de personnes se voient refuser une protection légitime contre les femmes persécutées en Afghanistan, les manifestants massacrés en Iran et la population palestinienne victime de génocide. Le système actuel est rendu inefficace par son double standard. Le droit international est universel et s'applique à chaque pays sans différence de traitement. Pourtant, nombreux sont les exemples de double standard, à commencer par la différence d'application des mandats d'arrêt internationaux envers Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou. L'ordre mondial est également paralysé par le système du droit de veto du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces institutions ont pour mandat de résoudre les conflits dans le monde. Or, ces 5 membres permanents, France, États-Unis, Russie, Chine et Royaume-Uni, peuvent bloquer toute décision avec leur droit de veto. Des pays comme la France et le Mexique proposent des réformes bienvenues permettant d'outrepasser ce droit de veto en cas d'atrocité de masse. Donald Trump, l'un des pires pourfendeurs actuels du droit international, accuse les Nations Unies d'inefficacité. Mais son pays, par son utilisation abusive du droit de veto, est bien souvent à l'origine de situations de blocage. S'il est indéniable que ce système n'a pas toujours tenu ses promesses, il n'appartient pas à ceux et celles qui trahissent les promesses de proclamer que celles-ci sont illusoires. Face à la bascule de l'ordre mondial, nous avons besoin de dirigeants qui choisissent le courage plutôt que la complicité. Les États doivent réaffirmer les principes fondateurs du système actuel, empêcher la loi du plus fort dans les relations internationales et placer la protection des civils et des droits humains au cœur des priorités. Ils doivent résister aux discours qui attaquent le droit international et faire évoluer ce système imparfait pour qu'il soit plus efficace et protecteur. À l'occasion de la publication donc de notre rapport annuel, nous avons mené une action de nuit à Paris. Vous verrez les photos sur le site, effectivement, si vous avez la page de présentation du rapport. Des projections de mots puissants et universels sur les monuments symboliques à l'Assemblée nationale, l'Arc de Triomphe et l'Arche de la Défense. Et ces trois mots, c'était justice, protection et courage. Voilà, Ça, c'était la présentation, donc petit résumé du rapport annuel. On ne peut que vous encourager à aller le lire et à aller lire aussi la présentation qui en est faite plus complète par Agnès Calamard, notre secrétaire internationale, que j'ai lue et qui est particulièrement, effectivement, intéressant et qui complète tout ce que je viens de dire. Mais comme j'ai beaucoup parlé, je vais laisser la parole à Claire Lise.
Alors, travailleurs, travailleuses, il arrive bientôt le jour où on va fêter la fête du travail, le 1er mai. Alors, en fait, c'est une introduction sur ce que je vais dire après, mais le 1er mai à Évreux, il y a une très jolie affiche qui circule actuellement, qui provient de nos amis des syndicats. Donc, le 1er mai 2026, à Évreux, il y a un rassemblement à 10h30 à la mairie d'Évreux. Et puis ensuite, il y a un rendez-vous à la Bourse du Travail à 12h30. Parce que cette année, après la rue, la fête. Alors, ensemble pour la paix, les libertés, la justice sociale et unis pour nos lendemains, ce sont les slogans qui nous invitent à participer à la manifestation du 1er mai, donc avec les syndicats, entre autres, et puis beaucoup d'autres organisations dont des associations non gouvernementales, et je pense qu'avec Amnesty, on sera présent. Et si on peut, on prendra la parole par rapport justement à la situation des travailleurs et travailleuses immigrés. Et ça fera un petit lien avec notre rapport, le rapport d'Amnesty qui est paru en novembre sur la situation justement de précaire, très précaire, et la fabrication de sans-papiers par l'État français par rapport aux travailleurs et aux travailleuses immigrées. Voilà. Et comme c'est le 1er mai, donc je vous invite à participer à cette manifestation, puisqu'elle est suivie donc après la manifestation, c'est la fête. Il y aura un repas solidaire assuré par les BAF Blocs, une buvette en partenariat avec la Brasserie Sport et un concert. Alors, Monsieur Mo, Shoot of Mend, Glass Lane et Gang of Venus. Voilà, donc ça sera du côté de la Bourse du Travail. Et au 1er mai, allez, on passe à un autre sujet. Au 1er mai, tout augmente, les tarifs augmentent.
Tout augmente, oui.
Tout augmente.
Il n'y a pas que le prix de l'essence, c'est ce que tu veux dire.
C'est ça. Et donc, du coup, notre cher gouvernement n'a pas oublié d'augmenter aussi les tarifs des timbres fiscaux pour les étrangers. Alors, c'est quand même monumental ce qui est demandé. Donc, avant, un timbre fiscal pour la première délivrance d'une carte de séjour ou de résident, elle était de l'ordre de 225 €. Eh bien, au 1er mai, ça passe à 350 €. Voilà. Alors, sauf pour les montants minorés. Les montants minorés, ce sont les travailleurs saisonniers, les étudiants en recherche d'emploi, en création d'entreprise, les regroupements familiales, les maladies professionnelles, les jeunes au pair et les stagiaires. Donc eux, ils ont un tarif minoré à 150 € quand même. Hein. Après, le timbre fiscal pour le renouvellement d'un titre de séjour. Alors avant, c'était 225, ça passe à 250. Sachant tous les retards qu'il y a pour arriver à obtenir son renouvellement de titre de séjour et tous les bugs qui sont présentés sur le site de l'ANEF. Administration numérique des étrangers en France. Le droit de visa de régularisation pour les étrangers entrés ou séjournant irrégulièrement. Avant, il était 200 €. Il passe à 300. Allez, augmentation d'un tiers. Ça, c'est une bonne augmentation. Visa de long séjour. Avant, il était à 200 €. Il passe à 300 €. Avant, aussi, il y avait l'autorisation provisoire de séjour qui n'était pas payante. C'était pour les personnes qui accompagnent quelqu'un qui a un titre de séjour étranger malade. Ou pour les personnes qui ont un enfant malade. Ils avaient une autorisation provisoire d'être en France avec autorisation de travailler qui était gratuite. Et bien maintenant, ça passe à 100 €. Voilà. Le droit de timbre pour la naturalisation. Attention, l'augmentation. Avant, elle était de 55 € si vous vouliez devenir français. Maintenant, être français, ça se paye. Ça sera 255 €, messieurs, dames. Et l'échange de permis de conduire étranger contre permis de conduire français, avant, il était de 0 €. Ben maintenant, c'est 40 €. Il n'y a pas de petit profit. Voilà. Donc, bonne fête du travail à tous. Bon, c'est dramatique, hein. Voilà, non, je le dis avec un peu d'humour, non, parce
je comprends, mais c'est vrai que c'est dramatique, ouais, effectivement, parce que ça vise à créer des blocages pour que les gens, effectivement, ne puissent pas faire les démarches
et
ne soient privés de leur accès aux droits, c'est clair.
D'autant que c'est d'autant plus grave que souvent, il y a des dysfonctionnements, que des personnes qui devraient avoir un renouvellement de titre de séjour à une date précise, qui ont fait tout leur dossier de renouvellement sur l'ANEF ou auprès de la préfecture, attendent pendant des mois. Parfois, ça dépasse le délai où la carte devrait être renouvelée. Et des fois, ça dépasse de 6 mois ou de 7 mois. Pendant ce temps-là, ils peuvent perdre leur droit à la CAF. Alors, parfois, ils ont un récépissé les autorisant à travailler en attendant, mais pas toujours. Et donc, quand il y a une perte de droit en attendant, s'ils ont un récépissé, ils n'ont pas les mêmes droits. Et quand ils éditent le titre de séjour, ils l'éditent souvent à la date où ça aurait dû être. Donc des fois, ils vont leur sortir un titre de séjour valable un an, mais il y a déjà 9 mois de périmé. Mais on va quand même leur faire payer plein pot. C'est ça qui est terrible. Et pour les régularisations, si, parce que c'est quand même à l'appréciation du préfet qui apprécie souvent que c'est non, s'il y a un rejet de demande de titre de séjour par régularisation, les 200 ou 300 euros qui auront été payés, c'est perdu. On ne leur rembourse pas. Voilà. Donc c'est quand même dramatique pour les personnes qui sont dans une très grande précarité.
Surtout quand on connaît les très faibles moyens dont disposent ces gens, voire l'absence complète de moyens. Voilà. Donc c'est vraiment
travailleurs, travailleuses, venez manifester avec nous le 1er mai.
Redis, on va passer à la pause musicale, mais tu nous redis juste avant le lieu de rassemblement et l'heure de la manif.
10h30 à la place de la mairie d'Evreux et 12h30 après, c'est la suite, c'est la fête. Après la rue, la fête, à 12h30, à la Bourse du Travail. Alors, je crois que c'est la nouvelle Bourse du Travail qui doit être à Saint-Michel,
qui est,
maintenant.
Qui est sur la côte de Saint-Michel, là, voilà. Un peu plus haut. Là. Effectivement, je n'ai pas l'adresse en tête, mais enfin, ouais. Voilà. Donc, c'est aussi une bonne façon, comme on parlait à la présentation du rapport annuel, et qui incitait effectivement les gens à ne pas rester assis devant la dégradation des droits. C'est aussi un moyen, effectivement, de lutter pour ses droits, de venir à la manifestation du 1er mai. On écoute la première pause musicale, on se retrouve juste après.
Une question que l'on me pose, comme un examen qu'on m'impose. Faut-il vraiment que j'y réponde dès la première seconde? Ce n'est pas tant qu'elle m'embarrasse, cette question qui me lasse et qui me renvoie toujours à la couleur de mes amours. Hey toi, d'où viens-tu, étranger? Hey toi, du Sénégal ou du Niger? Hey toi, d'où viens-tu, étranger? De Kinshasa ou de Saint-Pierre, je viens tout juste de comprendre pourquoi la chose est essentielle dans cette époque artificielle. Ma réponse ne peut plus attendre. La question n'est pas de savoir où j'ai vécu toutes ces années, même l'endroit où je suis né, mais plutôt pourquoi je suis moi. Hey toi, d'où viens-tu, étranger? Hey toi, du Sénégal ou du Niger? De Kinshasa ou de Saint-Pierre, cette chanson, je vous l'annonce, sera mon unique réponse. Je suis enfant de l'univers, je viens du ventre de ma mère, et pour ne pas se perdre. Si cela ne vous suffit guère, pour vous ces mots d'aimer ses ailes. Je suis noir et je vous en veux. Et toi,